Mathieu, je vais vous demander d'imaginer quelque chose. Je vais vous demander
Est-ce
d'imaginer...
que je dois fermer les yeux?
Pas forcément, mais si ça peut vous aider. Je vais vous demander d'imaginer qu'on est à la campagne tous les deux.
Ah, juste tous les deux.
Tous les deux,
d'accord.
Dans un champ de blé après la moisson. Et je veux vous proposer de m'accompagner dans une certaine direction. Pour vous communiquer cette proposition, en gros, je peux utiliser seulement trois des cinq sens, hein, le toucher, la vue et l'ouïe, parce que communiquer avec le goût et l'odorat, c'est vachement plus dur. Si vraiment on est très très près l'un de l'autre, je peux tout simplement vous prendre par la main et vous guider dans la direction que j'ai choisie. Utiliser le toucher.
Jusque-là, je suis.
Si on est à quelques mètres l'un de l'autre, je peux vous dire « Mathieu, Mathieu, que diriez-vous de m'accompagner dans cette direction ? On me dit que dans ces sous-bois pousse de la rhubarbe sauvage. »
Oh, bah allons-y gaiement.
J'ai utilisé l'ouïe. Mais si je suis à 200 mètres, ça va commencer à être très difficile et je vais devoir vous faire des grands gestes avec les bras, mimer les branches de rhubarbe sauvage, tout ça. Je peux peut-être me débrouiller, mais ça va être galère. Et depuis que l'homme est homme, eh bien, il cherche à régler ce problème. Ouais. Comment communiquer une information rapidement à quelqu'un qui est loin ?
Le yodel.
c'est pas mal, j'y avais pas pensé, mais c'est...
Comment ça s'appelle le yodel ? Ça fait exactement comme Tarzan.
Et le cri de Tarzan aussi.
Ah mais oui, c'est ça, vrai que c'est pour ça, oui, c'est vrai que c'est lié.
Et comment on dit rhubarbe en yodel ? C'est ça qui est un peu difficile. Donc communiquer rapidement, je dis rapidement parce que je peux toujours vous envoyer un messager à cheval pour vous transmettre une lettre qui vous détaille ma proposition sur la rhubarbe, mais le problème du cheval, c'est qu'il va à la vitesse du cheval, c'est-à-dire pas super vite. Et qu'est-ce qui va plus vite qu'un cheval ? Le son. Et la lumière. Et dans l'Antiquité, à plusieurs endroits en même temps, il y a diverses techniques qui ont été inventées, qui sont des sortes de proto-télégraphes. Dans la Grèce antique, il y a des sources qui laissent penser qu'on communiquait parfois avec des feux placés sur des tours.
Là, comme les Indiens.
Avec les signaux de fumée, tout à fait. Mais c'est très très dur de communiquer avec du feu de loin. En gros, il y a une seule chose qui est facile à dire, c'est oui, feu allumé, et non, feu éteint. Mais encore, il faut-il que tout le monde se soit accordé avant sur la question à laquelle le feu répond. Il y a aussi, comme on le disait, les Indiens d'Amérique qui avaient les fameux signaux de fumée. Mais disons, avant le 19e siècle, les peuples du monde qui avaient le meilleur système de communication longue distance, ils étaient tous en Afrique. Et ils utilisaient le tambour. Les Européens qui ont colonisé l'Afrique au 19e siècle, ils ont halluciné de la complexité des messages qui pouvaient être transmis de village à village avec les tambours et de la vitesse à laquelle ces messages circulaient, parfois à plus de 160 km/h, et selon un système en plus complètement passionnant.
C'est
parce
la vitesse du son.
160 km/h, c'est la vitesse du son.
Non, c'est plus rapide, la vitesse du son, c'est plus de 1000.
Le temps d'interpréter le message et tout ça, non ?
Oui, mais ça allait de village en village, donc le son, il s'arrête au bout d'un moment, il se perd dans la campagne. Donc il faut qu'il y ait des relais. Voilà, exactement.
C'est comme les antennes relais aujourd'hui, avec la 4G.
Et en plus, le système africain était complètement passionnant parce que c'était pas un code comme le morse, c'était des bruits qui imitaient le tambour, avec le tambour, la sonorité des vraies syllabes. Des langues, donc voilà.
Bon.
C'est complètement passionnant. Et pour battre cette vitesse, il a fallu attendre la fin du XVIIIe siècle en Europe avec le système du télégraphe Chap, inventé par un monsieur qui s'appelait Claude Chap. Et c'était un télégraphe visuel qui fonctionnait un peu comme le coup des feux sur les tours. Là, il y a quelqu'un qui fait un signal sur une tour, il y a une autre tour éloignée de la première de 10 ou 20 km où un autre gars reproduit le signal, et ainsi de suite. Et comme ça, le signal se propage. Sauf que là, c'était pas du feu, c'était trois bras articulés avec lesquels on pouvait faire 196 combinaisons différentes. La première ligne, elle a été mise en place entre Paris et Lille en 1791. Et le premier message important qui a été transmis, c'est la victoire des armées révolutionnaires françaises sur les Autrichiens en 1794 à Condé-sur-Lescaut. Condé-sur-Lescaut, c'est à 200 km au nord de Paris. Et la nouvelle a mis moins d'une heure à arriver à Paris. Et la dernière étape du télégraphe, elle est bien sûr venue avec l'électricité, parce que l'électricité, ça va à 300 000 km/s. Et donc, en appuyant sur un bouton, on peut faire en sorte d'allumer une lampe ou de produire un petit bruit instantanément à l'autre bout du monde. Et celui qui a rendu le télégraphe opérationnel, c'est bien sûr Monsieur Samuel Morse, qui a d'abord été peintre, avant de s'intéresser à la communication. Et truc rigolo, la première version du code Morse qu'on connaît tous, c'était pas du tout pareil. On envoyait des nombres qui correspondaient chacun à un mot. Et l'opérateur de l'autre côté, il avait un dictionnaire gros comme ça, dans lequel il devait chercher pour savoir à quel mot le nombre correspondait. Mais petit à petit, Morse et son associé, ils se sont dit, ce serait quand même plus pratique que l'opérateur, il comprenne direct ce qu'on lui dit quand même. Et ils ont inventé le code Morse qu'on connaît aujourd'hui, dans lequel ta 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 ta. Eh bien, ce sont mes initiales, DCL. Dernier fun fact.
Tout tourne autour de lui.
Le mégalo.
Dernier fun fact. Pour faire leur code, ils se sont dit que ce serait cool que les lettres qu'on utilise le plus souvent soient plus rapides à faire que les autres. Mais comment ils pouvaient savoir exactement quelle était la fréquence des lettres ? Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés voir l'imprimerie de leur journal local dans le New Jersey. Et ils ont vu qu'il y avait là 9000 exemplaires de la lettre T. et seulement 200 exemplaires de la lettre Z. Et c'est comme ça qu'ils ont construit l'alphabet. Pour faire le T en morse, c'est juste un trait, très facile. Pour faire le Z, c'est deux traits et deux points. Et ça a économisé des milliards de minutes aux gens qui ont utilisé le code morse depuis. Mais bon, depuis l'invention du téléphone, en gros, le télégraphe, il a entamé son déclin.
Étonnamment,
oui. Bah oui, parce que maintenant, on peut juste se parler au téléphone. Et bien sûr, quand on est dans la même pièce, on n'a même pas besoin du téléphone. Mathieu, ça vous dirait d'aller cueillir de la rhubarbe sauvage ?
Mais écoutez, j'ai envie de vous dire oui. Ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, alias David Castello-Lopez.
Chez moi, en Bourgogne, il reste un magnifique télégraphe de Chappe.
C'est vrai ?
Qui a été totalement rénové. Et vous pouvez visiter celui, c'est à côté de Lille-sur-Serein. Et il faisait partie de la ligne entre Paris et Marseille.
C'est le petit plus touristique d'Olivier Pouls.
On pourrait faire une petite sortie scolaire tous ensemble.
Tous ensemble, on pourrait faire ça. Une classe verte de l'historiquement vôtre, ça serait...
On peut retrouver les origines du télégraphe en podcast et sur les applis audio sur le site europe1.fr.